J'allais dire, on va changer les idées, mais... L'autre bord de l'océan, ça brasse aussi.
Oh, puis ça s'en vient brasser économiquement parlant ici. Puis même que Donald Trump est revenu dans le sud de l'Occident.
Il est revenu dans le sud de l'Occident. OK. Il est retourné chez eux à Maison-Blanche.
Exact.
Ben oui. Salut David Chabot.
Salut, ça va?
Chroniqueur international.
Est-ce que ça sonne big, hein?
Ça sonne vraiment
ben,
big.
Ben, c'est big.
Quand je viens ici, je me sens big.
T'es mon pote à moi. Tu fais les meilleurs résumés sur tes réseaux sociaux. Suivez-le, David Chabot, sur les réseaux sociaux. Tu nous parles des conflits mondiaux. J'adore ça. Des beaux petits résumés. C'est clair. Pour certains, moi, c'est quand tu fais tes revues de livres que ça me fait halluciner, là. Je me dis, j'ai pas besoin de lire le livre, finalement. J'ai tout ce qu'il y a d'important dans ce livre-là. Mais quand tu me parles d'actualité internationale, j'adore ça. On en est rendu. Le géant orange est retourné à Washington pour la Maison-Blanche. On nous dit qu'il est dans la salle où il gère à peu près tout le monde entier. Et de l'autre côté, Israël, ça continue avec l'Iran. Ils se tirent des missiles l'un et l'autre.
Oui. Mettons, on va séparer ça en trois événements différents. Le départ de Trump du G7, selon moi, c'était planifié d'avance. Là, je ne suis pas dans la conspiration, okay, c'est de la politique. Là,
pourquoi
pas...
toi, tu penses ça?
Parce qu'il n'y a pas une urgence qui justifie le fait qu'il soit parti d'avance. Puis le G7, lui, s'en sac et perdument déjà en partant. Fait qu'il est allé là pour faire un acte de présence, pour ne pas se faire attaquer comme quoi il veut se désengager trop complètement là, de la communauté internationale. Mais à un moment donné, il a parlé avec Carney, il a fait le tour, il a fait son deal avec la Grande-Bretagne, puis il s'est dit, regarde, j'ai fait mon bout, je suis parti. Tu sais, comme quelqu'un qui aime pas trop les parties, là, puis qui arrive, puis il dit, j'ai fait acte de présence, là, j'en suis dessus. Là. Fait que...
Ça serait un peu son genre, par exemple, de le dire vocalement que c'est ça le pourquoi qu'il s'en va.
Oui, mais là, il s'est trouvé une justification, puis tu sais, il y a, je sais pas comment dire ça, parce que son réseau social, c'est Truth Social, là, que je trouve tout le temps un peu bizarre à dire, parce que tu sais, ça.
J'aime tellement pas ça que ce soit un canal de communication, là.
Ça implique, tu sais, que c'est la vérité qui est là-dessus. Mais en tout cas, bref, il y a Truth, là, je pense que c'est ça qu'il faut dire, qu'il retournait aux États-Unis parce que America First, puis là, ça brassait, puis là, l'Iran. Fait que là, ça, c'est le prochain sujet, dans le fond, là, qu'est-ce que les États-Unis vont faire par rapport à l'Iran? Depuis qu'on s'est parlé vendredi, ça fait quand même pas si longtemps que ça, ça continue à se tirer allègrement des missiles. On voit que l'Iran a pas autant de capacité qu'au départ. Fait que là, c'est peut-être un indicatif que Israël a fait pas mal de dommages.
Ouais, l'Iran a perdu la face dans les derniers jours. Jamais on aurait pensé ça. Là. L'Iran, c'est quand même un pays qui est considéré comme riche. Ils ont beaucoup de ressources comme le pétrole, entre autres. Ils fournissent de l'argent à tous les terroristes de la planète. Puis là, de voir qu'on est rentré en territoire iranien, 200 avions qui sont rentrés là, plus des drones, puis ils ont tué toutes les grosses têtes dirigeantes du régime, plus toutes les grosses têtes qui s'occupaient du nucléaire. Je veux dire, l'Iran perd la face, puis pas à peu près.
Oui, il faut faire attention aux géants de papier hein, dans la géopolitique, là, parce que la Russie nous a un peu donné cet indicatif-là aussi. Ils sont rentrés en Ukraine en se disant « on va faire le tour de la piste avec les deux doigts dans les airs pour dire victoire ». Finalement, ils sont encore là, puis ils sont encore mal pris. L'Irak en 2003, rappelons-nous de ça, puis en 91 aussi à la guerre du Golfe, on nous disait c'est la plus grande armée du Moyen-Orient, ça a pris 22 minutes puis c'était réglé. Là, c'est la même chose dans le fond par rapport à Israël. Tu sais. Rappelons-nous que l'Iran avait des F-14 qui dataient des années 80 comme principal intercepteur, puis des MiG-21 que c'est un peu tout croche, que ça a de la misère à voler. Là, tu sais. Fait que là, sur papier, grosse armée. Wow,
sont-tu comme la Corée du Nord avec des tanks en carton là, pour tromper satellite?
Ben, probablement un peu.
Ah oui?
Ouais, non, c'est pas super. Eux autres se sont développés beaucoup une filière par rapport aux drones, justement, sans pilote, là, ben, évidemment, là, à distance. Donc, ils sont allés plus vers cette technologie-là, puis les missiles balistiques, parce qu'ils savent que c'est ça leur avantage par rapport à Israël puis le reste du Moyen-Orient.
Mais c'est quand même... c'est un peu à mentionner que pour la guerre en Ukraine, la Corée du Nord va envoyer des militaires pour aller reconstruire une partie de la Russie. Là, ils doivent avoir une couple de possibilités quand même. Là.
La Corée du Nord?
Oui.
Ben, écoute, ils sont allés en Ukraine, puis là, apparemment qu'il y en avait une vingtaine de mille. Là, ça n'a jamais été confirmé officiellement, mais ils ont dit on en a envoyé. Puis là-dessus, là, j'ai vu soit de 6 à 9 000 qui ont été tués parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils arrivaient sur le champ de bataille. Étaient
des gens qui n'étaient pas formés du tout. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire là.
Exact. Fait que là, si on se rappelle, on se ramène à l'Iran puis Israël, ben là, ça se tire des missiles balistiques. Puis là, Israël fait beaucoup de dommages parce qu'ils ont la suprématie aérienne. Ça, c'est ce qu'elle veut dire, c'est que tu voles sans aucune interception, aucune contrainte au-dessus du pays. C'est majeur, là, parce que rappelons-nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés avaient ça au-dessus de l'Allemagne, ça a fait du dommage pas pire. Là, on est un peu dans la même histoire. Sauf que là, ils s'en servent pour faire des frappes stratégiques puis très, très ciblées par rapport à, comme tu le disais, des généraux puis des responsables du programme nucléaire. Donc ça, c'est vrai depuis la semaine passée, puis ça continue en ce moment.
Ouais. Le programme nucléaire, je veux t'amener là-dessus parce qu'on entend ça dans tous les médias, mais il n'y a personne qui l'explique. C'est un programme nucléaire qu'on dit, entre guillemets, « civil
mm-hmm. ».
Donc, pour créer, exemple, de l'électricité. Mais les Américains disent, et les Américains et les Israël disent, non, c'est pas ça. Là. Israël s'est fait menacer, d'ailleurs, par l'Iran, que si jamais un jour l'Iran avait la bombe nucléaire, il allait l'envoyer sur Israël.
Ben oui.
Donc, Israël dit, il est hors de question qu'il y ait accès au nucléaire. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est au niveau de l'armée qu'on veut le nucléaire.
Ben oui,
c'est pour ça que c'est caché.
Tu sais, en termes de relations publiques, là, mettons qu'on sort un peu de l'armée, là, tu sais, la Corée du Nord a quand même bien fait ça, parce que là, pendant longtemps, c'était pas clair, ils ont tué un programme, finalement, oups, un beau matin, bang, ils ont la bombe nucléaire. Là, fuck, on est pogné avec ça. Là. Fait que là, tu sais, il y a comme une espèce de respect qui s'installe, parce que tu le sais qu'ils ont quand même cette capacité-là, même si elle n'est pas aussi développée que les États-Unis. L'Iran, ben ils ont plus tapé sur le chest en disant « Hey, ça s'en vient, là. Ça, c'est, je te le dis, là, mais te faire mal. » »«
Je l'ai, ouais.
Hey, je m'en vais au gym, puis je fais des chest bras, là, tu vas voir. » Fait que là, tu sais, qu'est-ce que t'as comme intérêt, c'est d'essayer d'amenuiser, dans le fond, ce mouvement-là. Donc là, Barack Obama, dans les années 2015-ish, avait fait un deal avec eux autres, puis il avait dit « Garde, on va faire un deal. J'envoie mes inspecteurs pour m'assurer que tu fais juste du civil. En échange, je lève des sanctions. J'avais de l'argent à toi qui traînait, je te l'ordonne. » Puis là, Trump, quand il est rentré dans son premier mandat, il a dit « C'est le pire deal que j'ai vu de ma vie, puis il a tout cassé ça. » Là, je te dis pas que le deal à Obama était le meilleur du monde, okay? Mais on avait quand même une structure de surveillance qui a disparu à travers le temps. Puis on s'en revient plusieurs années plus tard. Puis là, je veux pas blâmer Trump particulièrement, mais on est dans une situation où, là, clairement, il y avait un risque de développer cette capacité nucléaire-là du côté de l'Iran. C'est pour ça que Israël a agi. Surtout qu'Israël, on s'en parlait la semaine passée, sont vraiment en mode « I don't give a fuck anymore », excusez-moi des gros mots en ondes, mais ils ont enlevé les gants et ils disent « Moi, je frappe pour ce que ça me tente, puis regarde, on fait le ménage ». Fait que là, ils font le ménage en Iran. Donc là, on se ramène à Trump et les États-Unis, parce que là, ils sont un peu mal pris. Eux autres, ils négocient avec l'Iran. Là, Israël a commencé à frapper avant qu'il y ait un deal qui soit signé avec Trump. Fait que là, Trump n'aime pas ça, parce que lui, c'est le deal maker du monde. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de ramener un peu l'intérêt et le rapport de force par rapport aux États-Unis? En fin de semaine, il y a eu une nouvelle qui n'a pas été vraiment couverte parce que c'est très, très neutre, là, je m'en excuse, j'en suis un, mais il y a eu des déplacements d'avions ravitailleurs, des KC-135, là, c'est comme des espèces de gros Boeing avec une tank à gaz, littéralement, pour approvisionner les avions en vol, qui a été déplacé vers l'Afrique puis le Moyen-Orient. Fait que là, tout le monde se demandait pourquoi tu en envoies comme 25 en même temps, parce qu'il y en a 65 au total, puis tu sais, ça bouge tout le temps, ça, mais jamais en masse comme ça.
Le tiers de ta flotte qui s'en va là.
C'est ça. Fait que là, ça a levé bien des questions. Puis après ça, oups, là, on voyait qu'il y avait des bombardiers B2 qui bougeaient. Puis là, oups, fait que là, on se dit, ben OK. Puis il y a aussi le groupe de porte-avions du Nimitz.
Qui se sont rapprochés.
Qui s'en vont vers le Moyen-Orient. Fait que là, clairement, le message, c'est de dire, là, l'Iran, là, prends ça au sérieux parce que nous autres aussi, on s'en vient proche. Mais les États-Unis, puis Trump, a toujours été pacifiste. À sa défense, là, il n'a jamais engagé de façon offensive l'armée des États-Unis quand il était en poste. OK? Mais là, encore il y a quelques minutes, là, il a lancé un message en disant « Le leader suprême de l'Iran, on le sait où ce qu'il est, puis on le laisse là tranquillement pour l'instant. Mais là, gère tes affaires parce que sinon, ça va mal aller. »
Entre mettons. Les lignes, on pourrait arriver.
Est-ce que, je te pose des questions comme ça, Israël n'est pas capable d'aller chercher les Iraniens sous terre.
Oui.
Très, très creux sous terre. Les Américains sont capables, ils ont des bombes, la mère de toutes les bombes, en fait.
Oui.
Les Américains ont ça. Est-ce que ça peut envenimer les choses si les Américains confient la mère de toutes les bombes aux Israéliens, puis c'est les Israéliens qui la droppent?
Le problème, là, il y en a deux. Il y a le GBU-43, qui est le mother of all bombs, ce que tu dis là.
Ouais.
Mais ça, c'est pas fait pour aller dans les bunkers, dans le souterrain. C'est fait pour faire une espèce, on appelle ça un air blast en bon français. Donc là, il y a une grosse région, si tu veux. Là, de
on fait un stationnement.
Un kilomètre carré que si tu respires plus. Okay? Fait que c'est pas bon pour la santé. Mais il y a le GBU-57. Ça, c'est le Bunker Buster. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va chercher dans le sol. Là. C'est, dans le fond, le principe, c'est que la bombe, elle tombe puis est tellement pesante puis elle va tellement vite qu'elle rentre profondément puis rendue dans le béton, elle explose puis là, tout pète. Okay? Il y a juste les États-Unis qui ont cette capacité-là au monde. Mais la nuance, c'est que pour amener cette bombe-là, ça te prend aussi un avion qui est capable de le porter. Donc là, tu peux pas vraiment le laisser dans le parking en Israël en disant « organise-toi avec toi, avec ça », parce que probablement qu'il pourrait louer un avion, cargo, entourer ça de jets, pis tout, mais c'est pas simple. Donc c'est pour ça que les États-Unis envoient probablement des bombardiers B2, là, les espèces de Doritos qui volent, là, pour amener cette capacité-là puis être capable d'avoir le Bunker Buster en Iran. Donc là, le message, c'est de dire « là, on est capable d'aller chercher ta centrale nucléaire souterraine que tu nous dis qu'elle est donc bien cachée ». Puis toutes tes usines à drones puis tes usines à missiles balistiques là, sont toutes en jeu en ce moment parce que des GBU-57, j'en ai à l'infini, puis toi, t'as pas à l'infini des réacteurs nucléaires. Fait que là, c'est une autre façon d'amener l'Iran à la table de négociation en disant « Je suis capable de te donner un coup de poing sur la gueule. » Est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça la question. Mais là, Trump, il entretient le discours qui s'en va là. Mais, comme tu disais tantôt, tu sais, s'il fait ce geste-là, il s'implique dans une guerre au Moyen-Orient, même s'il n'envoie pas des soldats sur le sol, il va envoyer quand même des avions là-dedans, puis il va s'impliquer militairement. Puis là, ça change un peu la game.
Si Israël, parce qu'il y a des ressources là qui sont, tu sais, des puits de pétrole qui sont là, qui c'est des réserves mondiales, là. Israël ne peut pas tirer là-dessus en Iran. Là. Parce que là, ça va envenimer encore plus le conflit avec les autres pays qui dépendent de ces ressources de pétrole-là. Puis
ouais.
Le prix, le cours du pétrole va augmenter, ça n'aura pas de bon sens.
Oui, tu sais, ils s'en vont plus vers les centrales électriques. Ils veulent attaquer, dans le fond, la capacité de l'Iran de se défendre à date. C'est ce qu'on a comme rapport. Là. Oui, il y a des frappes qui tombent à mauvaise place, puis il y a des civils qui meurent. Là. C'est vraiment triste, on se comprend. Là. Puis je le dis pas de façon péjorative ou sarcastique, mais les cibles semblent être vraiment militaires ou du programme nucléaire. Mais à terme, effectivement, qu'attaquer ça, ça leur ferait mal, mais ça ferait mal à la planète au complet. Puis le vrai risque en ce moment, c'est que l'Iran ferme le détroit d'Hormuz, là, qui est comme l'espèce de, ben de... C'est un détroit, ça le dit dans le nom, hein, qui amène vers l'Émirat arabe uni, le Koweït, ouais. L'Arabie saoudite, en tout cas une partie
qui est l'endroit par où ça transitionne.
Exact. Puis là, ben l'Iran a déjà fait ça, a déjà menacé de le faire, puis eux, ils ont comme une flotte de petits bateaux patrouilles qui sont vraiment tannants. Mais ils sont faciles à contrebalancer, si tu veux, mais ils sont vraiment tannants parce qu'ils sont c'est quasiment des drones, dans le fond, en masse. Donc là, ça, c'est un vrai risque, parce que si tu fermes le détroit d'Hormuz pendant une semaine, t'as plus de pétrole qui sort de là, puis il y a du monde qui va avoir soif plus tard, parce que c'est pas tous les pays qui ont une réserve stratégique comme les États-Unis avec des tanks à pétrole au cas où. Donc ça, c'est une vraie menace que aussi les États-Unis veulent contrebalancer.
Puis je sais que tu n'es pas un spécialiste du nucléaire, là, puis je sais pas si on en a un à Québec. Textez-moi, 418-971-1021. Mais advenant le coup, on a cette fameuse bombe des Américains qui fait en sorte que ça rentre dans le sol puis ça fait péter tout ce que les Iraniens tentent de faire. Au niveau de l'environnement, ça fait quoi quand tu te fais exploser une centrale nucléaire?
Ouais, c'est sûr que Daniel Breton ne sera pas très, très content de ça, là, mais j'ai sorti un vieux nom. Ça. Mais tout ça pour dire que. Mais on va dire le ministre Guilbeault fédéral, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que c'est pas très bon, effectivement. Puis le risque aussi, c'est que si tu fais exploser cette centrale-là pour l'enrichissement, il va rester quand même de la matière radioactive que là, tu peux faire des bombes sales. Puis là, l'Iran, c'est le genre d'affaires qu'ils ne feront pas jamais directement, mais ils ont un réseau de terrorisme assez extensif. Donc, ça reste un vrai danger. Mais là, le dilemme, c'est de dire, laisse-tu avancer avec leur programme puis il y a vraiment des bombes atomiques conventionnelles, des bombes nucléaires, ou au contraire, on les laisse devenir un peu dans le terrorisme, des bombes sales puis tout ça. Là. Mais je pense qu'en ce moment, la volonté, c'est d'arrêter complètement le programme nucléaire iranien.
Ça pourrait-tu se retourner contre eux, admettons qu'ils allaient avec les bombes sales puis des genres de... peut-être collaboration un petit peu plus étroite avec des groupes terroristes?
Bien, tu sais, là, en ce moment, ils sont très actifs avec le terrorisme, mais ils n'ont jamais fait le pas vers des armes de destruction massive comme ça peut l'être avec des bombes sales. Si c'est démontré qu'ils l'ont fait, bien là, c'est un acte de guerre
direct, là.
Impardonnable. Mm-hmm. Puis là ça va mal virer, là, clairement.
OK. Advenant le cas, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est affaiblir les Israéliens, tant dans leur rang de l'armée que des hauts dirigeants, que chez les experts du nucléaire. Advenant le cas où on réussit à les affaiblir totalement, ça va redevenir un gouvernement militaire, là, parce qu'il n'y a pas de gouvernement iranien qui est en latence là, dans le secteur de l'Europe puis qui attend de prendre le pouvoir en Iran.
Mmh. Oui, absolument. C'est toujours ça, ça s'appelle du nation building, dans le fond. C'est de dire, comme ils ont fait les États-Unis en Irak puis en Afghanistan, ça en était parlé il y a quelques semaines, c'est correct de faire du ménage, c'est facile à faire. Dans ce cas-ci, c'est très, très ciblé, mais à un moment donné, tu te dis, moi, je sors le gouvernement complet. Comme ils ont fait en Libye puis ils ont voulu faire en Syrie, tu sais. Mais une fois que tu as fait ça, c'est quoi le prochain step? Puis là, c'est pas clair. Là. Parce que même si tu fais exploser la tête de tous les dirigeants en Iran, t'as pas plus changé de régime. Fait que tu vas avoir encore des gens qui vont prendre la place puis qui vont essayer d'entretenir le même régime qu'avant.
Fait que c'est le régime militaire qui va prendre place, donc la religion aussi.
Bien, c'est tout le temps à cheval. Hein. L'Iran, c'est tout le temps une espèce de théocratie militarisée. Fait que là, oui, peut-être qu'il va y avoir des généraux qui vont prendre un peu plus de leadership, mais la religion va rester très, très présente aussi dans le pays puis dans la gouvernance. Le vrai changement devrait venir de l'intérieur avec une révolution citoyenne et tout ça, mais je vois pas ça en ce moment, là, pas tout.
OK. La position des autres dans le conflit, bon, on a parlé du Qatar, qui semblent autour. Pourquoi tout le monde reste un peu en alerte et se mêle pas à la danse? Pourquoi c'est les États-Unis versus Israël puis l'Iran?
Tu sais, la géopolitique, c'est assez simple, finalement. Tu sais, il y a le principe qui s'appelle le « realpolitik », ou « realpolitik », ou en tout cas, c'est un nom allemand. Le principe, c'est de dire que la posture des pays est influencée par leur position de puissance. Donc là, plus t'es fort, plus t'as de l'influence, plus ta posture est en puissance. Tu me suis? Donc là, un pays comme la Jordanie, par exemple, qui est entre les deux, là, tu sais, il est juste à côté de l'Israël. Il y a tout le temps eu un petit peu d'enjeu avec la Cisjordanie, là, tu sais, qui est comme la section palestinienne d'Israël du côté est. Ben, eux autres, tu sais, ça va, comme, ça va quand même bien chez nous. Ça m'écœure que des musulmans se fassent, soient en conflit avec Israël, mais en même temps, j'ai pas tant intérêt à me mêler de ça. Fait que là, je gère mes frontières puis j'essaie de diminuer le terrorisme. Donc, des pays comme ça, là, la Syrie, évidemment, ça va pas super. Là, ils sont en reconstruction, mais tu me parles, tu sais, des Émirats arabes, de l'Arabie saoudite, ils ont zéro intérêt à se mêler de ça parce que, oui, d'un point de vue idéologique, tu sais, ça touche un peu leurs valeurs, bien que là, il y a tout le temps...
Leur réserve de pétrole.
Oui, absolument. Mais il y a tout le temps le split sunnite-chiite aussi, là, au Moyen-Orient, qui influence beaucoup la lecture de ces situations-là. Mais pour résumer ça simplement, c'est pas des pays qui ont la capacité d'influencer un conflit comme ça parce que là, c'est vraiment des gros joueurs qui s'en mêlent. Fait que là, je pense qu'ils préfèrent juste dire, regarde, on va collaborer, on va rester sur le site, puis on va voir qui va gagner dans cette histoire-là. Puis là, ben clairement, il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Là. Fait qu'ils vont s'aligner finalement avec les gagnants puis essayer de moyenner leur position. Parce qu'ils n'ont pas la puissance, dans le fond, pour influencer le conflit directement. Donc là, il rentre pas mal tout seul dans sa gang.
Le fameux dôme de fer fait job.
Semi, parce que là, l'Iran a des missiles hypersoniques. Je sais pas si c'est une bonne traduction de l'anglicisme, mais c'est des missiles qui vont très, très vite, là, pour faire ça simple. Puis, tu sais, on s'en parlait la semaine passée, là, le dôme de fer, dans le fond, c'est une des trois couches de la protection aérienne israélienne. Là. Il y en a à plus longue distance. Puis le dôme de fer, c'est vraiment le dernier kilomètre. Là, okay? Puis ils sont pas capables en ce moment d'arrêter tous les missiles hypersoniques. Par contre, cette technologie-là est dure à produire, fait que l'Iran va vite tomber à la fin de leur réserve. Fait que là, c'est une menace à court terme, mais à moyen terme ou à long terme, ça va se moyenner. Mais il y a tout le temps ça aussi, hein. Ils utilisent en ce moment des missiles qu'ils n'ont jamais utilisés, l'Iran. Puis c'est la même chose, la Russie en Ukraine, ils utilisent des technologies qu'ils n'ont jamais fait sortir. Donc là, ça donne beaucoup de renseignements de qualité au service de renseignement militaire américain, israélien, puis toute la gang de l'OTAN. Donc, quand tu utilises ça, oui, tu peux avoir une capacité de frapper et de faire mal. On a vu des vidéos qui ont passé sur les réseaux sociaux où ça tombait à Tel Aviv puis ça faisait péter des quartiers. Mais après ça, c'est connu. Là, il va y avoir des débris, ils vont pouvoir faire une analyse puis ils vont être capables de contrer un peu mieux ces technologies-là.
C'est complètement capoté. Hein? D'un bord, tu as l'Ukraine avec la Russie contre l'Ukraine, Trump qui tente d'intervenir. Après ça, tu as Israël contre la Hamas / Palestine, puis tu as Israël contre l'Iran. Mm. Et que ça brasse.
Ça brasse.
On est-tu bien à Beauport, David?
À Beauchâtel, il n'y a pas de guerre civile, je te dis.
Non, c'est ça.
Mais
il y en a une, mais comme pas nécessairement dans notre face.
À Beauchâtel?
Sur Spotted, c'est l'enfer.
Non, mais on s'est acheté des bâtons à Beauchâtel.
OK, on essaie de dédramatiser. Des râteaux, puis...
c'est tragique, mais en même temps, ça donne de la matière.
Un gros merci, David Chabot.
Merci à vous autres.
Bye-bye. 5, 6...